L'Ennéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer. Avec Cécile Flora Lefebvre et Justin Douillet.
On s'intéresse à présent à la base 7, celui qu'on pourrait caractériser de joueur épicurien idéaliste aussi.
Oui, c'est ça. En fait, la base 7 de l'Ennéagramme, c'est celui qu'on qualifierait d'épicurien. Et en fait, il faut revenir à l'étymologie d'épicurien. Épicurien, à la base, c'est quelqu'un qui se satisfait et qui apprécie les plaisirs simples de la vie, qui va se délecter de paysages, de la nature, d'un bon verre d'eau, de manger à sa faim, enfin voilà, qui est vraiment à satisfaire de plaisirs simples. Mais dans l'Ennéagramme, le côté épicurien, on le voit plus sur le côté profiter de la vie, quoi. Y aller à 100%, presser de vivre, je veux bien manger, je veux m'amuser, je veux avoir des amis, je veux... Et en fait, c'est la stimulation, la surstimulation des plaisirs.
Donc si on pouvait caractériser le profil 7 en émoji, ça serait le petit bonhomme avec un cône sur la tête et je sais pas comment on appelle ça, mais quelque chose qui souffle dans la bouche pour fêter quelque chose. D'ailleurs, les profils 7 disent toujours, il faut célébrer, c'est important.
Oui, faut se faire plaisir.
Faut se faire plaisir.
J'ai entendu beaucoup de profils 7 dire oui, il faut se faire plaisir dans la vie. C'est celui que vous invitez à une soirée parce que vous avez envie de rigoler. Il célèbre la vie et en fait, il a besoin d'avoir les options ouvertes. C'est le planificateur dans l'Ennéagramme. Pourquoi ? Parce que il a une peur inconsciente de la souffrance, de manquer, de s'ennuyer, et donc. Quand on a cette peur-là au corps, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on va planifier dans notre vie plein d'options, on va planifier plein de manières de s'amuser. Ça va être le boulimique de la vie, celui qui dit « mais moi j'aime trop la vie est une aventure, la vie est un jeu, la vie est une fête ». Donc ces phrases-là, vous les entendez beaucoup dans la bouche des sept.
Finalement, les sept rêvent d'avoir plusieurs vies, quoi.
Exactement. Oui, c'est vraiment quelque chose que vous allez entendre. Vivre sans vie, vivre sa vie de Jean-Jacques Goldman est une très belle chanson qui illustre la base 7. Vous avez typiquement Peter Pan. Peter Pan, on est dans l'espèce d'enfant qui n'a pas envie de grandir. Et effectivement, les bassettes sont souvent l'œil rieur, sont souvent de grands enfants. L'animal totem, c'est le singe. C'est celui qui passe de branche en branche, qui s'amuse, qui est rieur, qui est joueur. Et donc, pour revenir à la notion d'épicure, en fait, finalement, c'est là où on va voir le 7 dans son évolution, quand il va revenir à plus de raffinement. C'est-à-dire, il va se délecter d'un bon verre de vin plutôt que de vouloir à tout prix passer la soirée à boire et à s'enivrer de plaisir. Et on revient du coup au vrai terme qu'est l'épicurisme.
Alors, quand le 7 va pas trop bien, va moins bien, quelles sont un peu ses parts d'ombre ? Quelles sont ses difficultés ?
Le 7, quand ça va pas trop bien, il se met à être très critique. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas organisées pour son bon plaisir, exemple, il réserve une chambre d'hôtel, il se fait un plaisir, ou il commande une super bouteille de vin et le vin est bouchonné, vous pouvez alors avoir affaire à un 7 qui peut être extrêmement frustré, chose qu'il déteste, et donc va venir la notion de contrôle, et il peut devenir très acide, très acerbe, et là vous allez être hyper étonné parce qu'on n'est plus du tout sur le joyeux luron. Et donc, la zone d'ombre de la base 7, c'est ça, c'est que des fois, j'aime à dire que ça peut être même le tyran de la bonne humeur, des fois. C'est rire à tout prix, rire même des fois au détriment de, quand vous avez un 7 qui est sous stress et qui est en régression. C'est-à-dire qu'il va toujours vous dire qu'il va bien, même quand ça va pas bien. Et j'aime à dire que les types 7, ce sont les profils qui devraient, de toute façon, travailler sur eux pour éviter un jour de sombrer vraiment dans une grosse dépression, parce que il y a ce talent naturel dans la base 7 de passer à autre chose, un de perdu, 10 de retrouvé, de transformer, de rationaliser, de dire non mais c'est pas grave, enfin de tout de suite switcher à quelque chose de positif. Et en fait, on se rend compte que à mettre les choses sous le tapis, parfois on n'en a pas fait le deuil et les choses n'ont pas été traitées, et il y a parfois une tristesse latente. Et donc j'ai envie de dire, tout le monde devrait travailler sur soi, mais le profil 7, il doit y porter une attention particulière.
Quand il va bien, quand il est, ce qu'on dit, bien intégré, quand il est bien dans sa base, quelles sont ses forces ?
C'est ça, il revient à du raffinement, il va se poser sur un sujet et il va, au lieu de papillonner, il va aller plus en profondeur sur le sujet, et ça devient des personnes qui vont être un peu moins, on va dire, dans l'exubérance. On revient à de la tempérance, c'est vraiment le mot de cette base, si on doit revenir, c'est passer vraiment de l'exubérance à la tempérance.
Si on veut identifier des profils 7 dans notre entourage, est-ce qu'il y a des mots-clés qu'il pourrait utiliser ?
Ah bah déjà, si vous criez apéro dans une pièce,
c'est le premier qui se lève. Chance.
Oui. Non, bah voilà, c'est la célébration, c'est le fait. Alors c'est des profils de lien, donc ils vont adorer créer du lien, être en lien avec avec les personnes. C'est quelqu'un qui fait une blague sur votre blague. C'est une personne qui est très friande de jeux de mots. Donc ça, vous pouvez aussi le repérer. Et puis, c'est, j'aime à dire que ce sont des grands enfants.
Et est-ce que la phrase cap ou pas cap fonctionne bien avec eux?
Oui, alors pas que dans l'énéagramme, mais en tout cas, si vous dites cap ou pas cap, parmi les profils qui vont se lever, il y aura le profil 7.
Alors, vous le savez, dans les différents podcasts que nous animons avec Cécile, nous avons à cœur d'inviter, donner la parole à des personnes qui sont certifiées de la base que nous présentons. C'est le cas de Florian, qui a 51 ans et qui est avec nous. Bonjour Florian.
Bonjour.
Alors, on va te poser une première question. Qu'est-ce que t'a apporté la découverte de l'énéagramme et de ton profil?
Ah bah, pour moi, ça a été une révolution. C'est-à-dire que c'était maintenant il y a presque une dizaine d'années. J'étais en quête, en recherche, comme je suis depuis très longtemps dans ma quête du qui suis-je. Et j'ai absolument été convaincu dès le premier stage de la pertinence de cet outil. Pour moi, l'énéagramme est un outil simple, puissant et pertinent, percutant, je veux dire, qui m'a permis enfin de prendre conscience du petit compagnon intérieur avec lequel je me trimballe depuis ma naissance, ou presque ma naissance. Voilà. Donc c'est vrai que ça a mis une lumière, un éclairage très très puissant et très clair sur mes mécaniques, sur mes compulsions, sur mes talents et évidemment sur les revers de la carte. Ça veut dire sur les zones d'ombre qu'il nous faut absolument regarder.
Comment tu vivais ta personnalité avant de rencontrer l'énéagramme?
Ben, je crois que je la subissais plutôt que de la vivre. C'est-à-dire que si je regarde les années précédentes, c'était un esprit d'aventure, l'envie de me renouveler, un immense besoin de mobilité. Effectivement, le cap à cap, ça marchait bien, voilà. Et l'envie absolument de jouir, de goûter la vie. Vous disiez tout à l'heure que une expression qui marche bien, c'est j'aime ma vie. Moi, ma phrase type, c'est j'adore ma vie. En fait. J'adore ma vie parce que les journées de 24 heures sont évidemment trop courtes et qu'il y a énormément de stimulations qui sont offertes tous les jours, aussi bien sur le plan géographique, sur le plan culinaire, sur le plan des idées. Donc, ma vie avant était plus subie au sens où c'était une dépense d'énergie, une surstimulation, une surréactivité à tout ce qui était proposé par la vie au quotidien. Et puis, l'énéagramme m'a permis de commencer à faire le tri et à mettre mes enjeux et mes importants au bon endroit.
Alors, qu'est-ce que tu sens que l'énéagramme peut apporter dans ta vie future?
Disons que pour moi, l'énéagramme, c'est un processus, c'est une démarche. Donc, comme je disais, ça fait presque 10 ans maintenant que je me trimballe avec cet outil, et je dis régulièrement que l'énéagramme est pour moi mon outil de développement personnel préféré. C'est-à-dire que quotidiennement, j'y fais référence. Je connais bien cet outil, je l'ai beaucoup creusé sur mon profil, sur les pipes de profil. Cet outil pour moi est un très très beau moyen et de travailler sur mon profil, mais évidemment de travailler sur toutes les facettes que j'ai en moi-même qui me permettront de révéler mes 8 autres talents. Voilà, parce que dans cette dynamique de cet outil-là, une fois qu'on connaît bien son profil de base, l'idée c'est de pouvoir se mettre en dynamique pour révéler et réveiller des zones de soi qu'on a besoin. Donc, dans ma vie future, c'est, comme disait Cécile Flora, c'est amener de la tempérance, devenir spécialiste de certains domaines de vie. L'énéagramme me sert aussi dans ma pratique professionnelle, puisque aussi bien dans ma pratique artistique que dans ma pratique de thérapeute, je me sers de l'énéagramme au quotidien. Donc, c'est à la fois une démarche personnelle, une démarche qui me permet d'entrer en communication différemment avec autrui, et puis une démarche professionnelle, parce que véritablement, dans mes accompagnements, l'énéagramme est un accélérateur de relations et un accélérateur de compréhension.
Étant donné que toi, tu utilises l'outil dans ta pratique et donc que tu as une très bonne connaissance de cet outil, à quoi tu reconnais aujourd'hui quand tu pars en désintégration, pour utiliser un des mots de l'énéagramme? Et pour ceux qui nous écoutent, la désintégration, c'est vraiment sous stress, quoi. Quand on ne donne pas la meilleure version de nous-mêmes, à quoi tu reconnais que tu pars dans ces travers-là?
Tout à l'heure, tu parlais du contrôle. Moi, je me vois plutôt comme quelqu'un de souple, souriant, dynamique. Et lorsque je suis sous stress, donc quand je me désintègre, là, je vais très clairement être dans le contrôle. Je vais être cassant, je vais être piquant, je vais être sec, je vais être froid, je vais être distant. il y a quelque chose du raidissement intérieur qui est vraiment là. Donc ça, c'est une première mécanique. J'ai aussi une mécanique de retrait, c'est-à-dire que mon profil 7 est assez connu pour bien s'aimer, pour être plutôt bienveillant avec lui-même. Et quand je suis en sous-tension, il y a quelque chose qui se raidit et qui se mésestime à l'intérieur de moi-même. Et ceci est particulièrement désagréable pour un profil comme le mien qui n'a pas beaucoup l'habitude de se maltraiter de cette sorte.
C'est drôle quand tu as dit le profil 7, il est bienveillant avec lui-même. Justin, tout à l'heure, tu disais quels sont les mots de la base 7. J'ai entendu je ne sais combien de 7 en formation dire « je me kiffe ». Oh là là, je me kiffe. Et quand on parlait des défauts, de dire « oui, mais c'est pas vraiment un défaut » parce que finalement, et de rationaliser le défaut avec tout son charme, le 7 arrivait à nous faire croire et voir que finalement, c'était pas tout à fait un défaut. Donc ça, c'est quand même un talent chez le 7.
Ah oui, le 7, c'est très très bien argumenté. C'est un extrêmement bon commercial de lui-même.
Pour quelle raison tu conseillerais à ceux qui nous écoutent de découvrir leur profil ?
Moi, en tant que thérapeute, j'accompagne les personnes à faire en sorte que nous puissions devenir les meilleurs amis de nous-mêmes et que dans cette cohabitation avec nous-mêmes, nous ayons les moyens d'éclairer le chemin. Voilà. Donc, je conseille les formations d'Ennéagramme parce que c'est pour moi un excellent outil qui permet de vérifier sur quoi nous posons les pieds sur notre chemin de vie. Comment, en tricotant notre vie, nous pouvons, grâce à cette cartographie, nous pouvons nous assurer d'aller au mieux. Ce que j'appelle moi le chemin vert, ça veut dire le chemin écologique pour soi et pour les autres, de manière à pouvoir se respecter et respecter l'environnement. Donc je conseille parce que cette cartographie, elle est vraiment accessible. Et pour ceux qui veulent vraiment s'y plonger, je trouve qu'elle est source d'extrême richesse, sur le plan psychologique certes, mais aussi peut-être même sur le plan spirituel, parce que je trouve que ça donne un sens, une direction à nos vies qui, moi, me portent en fait quotidiennement. Je kiffe ma vie.
Merci beaucoup, Florian, pour le temps que tu nous as accordé.
Merci beaucoup.
Alors, Cécile, quelle personnalité connue pourrait s'apparenter à un 7, par exemple ?
Eh bien, on a Cameron Diaz, dans les actrices américaines, qui a toujours revendiqué le fait d'être libre et d'être une femme vraiment libérée. On a aussi Yannick Noah. Alors, Yannick Noah, en plus, il incarne vraiment la base 7 dans le sens où il est multipotentiel. C'est-à-dire que le 7, c'est celui qui va avoir démarré plein de projets, souvent pas tellement finis. En l'occurrence, lui, il les a finis. Mais voilà, c'est le côté touche à tout. Et puis surtout, effectivement, dans la flexibilité de son corps et... Le 7, il a cette particularité d'avoir l'œil rieur. Il arrive vers vous et il pense à quoi je vais jouer avec toi. Et ça, c'est très caractéristique. Et puis, ce que j'ai envie de dire, c'est que si on imaginait un monde sans 7, ça serait un monde qui tomberait dans le pessimisme et la dépression. Parce que le vrai talent du 7, c'est sa façon d'être optimiste et de voir le verre à moitié plein. Et même si dans le verre, il n'y a qu'une goutte d'eau, il te dit, c'est pas grave, en fait, on va l'exploiter, on va en faire quelque chose. Donc voilà, ça c'est extrêmement important. Et puis après, si vous avez des 7 autour de vous, si vous-même vous êtes reconnu dans la base 7, ce qui va être extrêmement important, c'est de voir à quel point vous pouvez vous perdre et vous avez l'impression, vous vous bercez de l'illusion d'être libre quand vous multipliez les potentiels et les options et que vous laissez toutes les options ouvertes. Mais en fait, en fin de compte, vous retombez à nouveau dans le fait d'être dépendant de laisser toutes les portes ouvertes. Et c'est pour ça qu'il faut revenir au fait de se centrer et de se centrer sur quelque chose. Et de s'enthousiasmer des choses simples, les choses simples de la vie, de revenir au vrai sens de ce que c'est qu'être un épicurien.
Merci Cécile.
Merci Justin.
Retrouvez les autres épisodes du podcast L'Énéagramme, mieux se connaître pour mieux s'aimer sur rtlpodcast.be. Et pour en apprendre davantage sur la connaissance de soi, retrouvez Cécile Flora sur cécileflora.com.